Bonjour tout le monde. Spectaculaire commence, mercredi 6 mars 2024, c'est une reprise. Émission 323, Christophe Roland au micro, émission 323, c'est intéressant, c'est un palindrome, 3-2-3, 3-2-3. C'est une sorte de répétition à l'endroit, à l'envers. Et pourquoi cela est-il nécessaire? Pourquoi est-ce qu'il faut que je l'indique? Parce qu'on va parler de À la ligne, un livre de Joseph Pontus. Texte très étrange qui est donné en lecture théâtralisée, c'est d'ailleurs un peu étrange, ce n'est pas donné en pièce. Eh bien non, une lecture théâtralisée par Grégoire Blanchon. C'est l'invité d'aujourd'hui de la compagnie Quand je marche, avec Steven Fafourneau et Jennifer Testard. C'est donné au Théâtre des Marronniers, ça commence aujourd'hui, mercredi 6 mars, c'est donné jusqu'au mercredi 13 mars de la semaine prochaine. Théâtre des Marronniers, vous situez ce théâtre, la petite rue à côté d'une perpendiculaire de la rue de la Barre, la rue d'ailleurs des Marronniers, quartier Bellecour. Et c'est relâche, samedi dimanche, et c'est vraiment un spectacle, enfin du moins un texte assez spécial. Grégoire va nous en parler pendant toute cette heure. Et donc pour commencer, eh bien, la musique répétitive s'imposait un petit peu. Ce n'est pas du tout mon choix. Néanmoins, je le cautionne, j'acquiesce, je l'approuve tout à fait. On va écouter Steve Reich avec ce titre Pulses de Music for 18 Musicians. Écoutons l'ouverture de ce titre. Vous allez constater une forme de répétition dans le texte, à la ligne, de Feuillet d'usine. J'aurais peut-être dû également souligner, donner ce sous-titre à cette œuvre de publiée en 2019 aux éditions de la Table Ronde. Donc voilà, musique répétitive pour commencer. La programmation musicale est assurée par notre invité Grégoire Blanchon et on va écouter d'autres titres encore jusqu'à 15h comme toujours. Des questions lui seront posées, bien évidemment. Vous nous écoutez, et vous le faites bien, sur radiocanu.org si c'est sur Internet et si c'est à Lyon, très bien aussi, c'est 102.2 de la bande FM. manque encore à peu près 2 minutes pour arriver au terme de cette ouverture de l'œuvre Music for 18 Musicians, musique pour 18 musiciens de Steve Reich. C'est avec l'accord de Grégoire Blanchon. Bonjour Grégoire.
Bonjour.
Que je me permets d'en rester là pour ce titre, parce qu'après cela, il reste toutes les autres mouvements de cette œuvre. 3 quarts d'heure, c'est ça, je crois, une grosse demi-heure, il me semble, pour cette œuvre de Steve Reich. Je vous en remercie. Merci Grégoire pour ce titre, pour ouvrir l'émission, parce que c'est complètement sorte d'effet stroboscopique, quoique l'effet stroboscopique est plutôt visuel, mais il y a cela un effet vertigineux pour commencer l'émission. C'est très bien, et cela est assez exact, ça rend, je crois, assez bien compte d'un univers de répétition, notamment celui de l'entreprise, pour ce texte que vous mettez en scène, dans lequel vous jouez aussi. Il s'agit de À la ligne, feuillet d'usine de Joseph Pontus, publié en 2019 aux éditions de La Table Ronde. Et vous présentez ce spectacle au Théâtre des Marronniers, mercredi 6 mars jusqu'au mercredi 13, la semaine prochaine. Vous êtes venu nous en parler et nous en savons gré. Mais pour commencer, un petit peu une sorte de présentation de vous-même avant que nous évoquions Joseph Pontus et puis que nous parlions de son texte, surtout À la ligne, et puis que nous parlions de cette lecture que vous en faites. Quel a été votre parcours? Qu'est-ce qui vous mène, en fait, même qu'est-ce qui vous mène à ce texte? Comment est-ce que vous tombez dessus? Alors peut-être qu'on pourrait commencer, oui, pourquoi pas, la petite enfance. Qu'est-ce qui vous mène tout d'abord au chant, hein, je crois? Vous êtes également chanteur, comédien, metteur en scène, et puis on arrivera tout doucement à Joseph Pontus avec cette œuvre À la ligne, feuillet d'usine.
Alors la petite enfance, je vais peut-être vous épargner ça. Non, j'ai chanté et joué au théâtre depuis petit. Et puis pour le fait de devenir professionnel, j'ai été formé au Conservatoire d'art dramatique de Lyon, dont je suis sorti il y a maintenant 15 ans, je crois. Et très vite, il y a eu une pluralité des disciplines, à la fois la mise en scène, le jeu, l'écriture. Un aspect aussi vers la pédagogie, et puis la musique, le chant, l'écriture de chansons, le chant sous toutes ses formes.
Oui, mais d'où est-ce que ça vient? Ce sont des rencontres, ou c'est des moments, la télévision, des gens autour de vous, un oncle, une tante, un professeur, un copain, une copine, un grand frère, une petite sœur,
Je me souviens, c'est toujours pareil, hein, y a des mythologies qu'on reconstruit après coup, des mythologies personnelles. Moi, j'ai toujours chanté, petit, et puis c'est dans le regard des adultes où tout à coup, on vous dit « Ah, il y a quelque chose !» Et donc, on me dit « Pourquoi pas aller prendre des cours de chant ?» Mais c'est d'abord un pur plaisir d'enfant, sans conscience extérieure de ce que ça rend, de ce que ça produit chez les autres. Juste, c'est d'abord physique, chanter. Et puis, le théâtre, je me souviens... d'un arbre de Noël, mais j'ai l'impression que je suis mon psychanalyste. Donc je me souviens d'un arbre de Noël où on nous offre une place.
6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça
Je pense que c'est ça. Je pense que c'est 6 ans, 7 ans. On nous offre une place pour un spectacle qui s'appelait Barnum au Théâtre des Célestins, mis en scène par Jean-Paul Lucet. Donc c'est très, 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 très vieux.
Comment le directeur historique des Célestins.
Exactement.
Avant Claude Stavisky.
Et c'était sur Barnum qui a construit les cirques aux États-Unis avec les freaks, les femmes à barbe, les hommes troncs, etc., etc. Et c'était une comédie musicale. En vérité, il y avait du chant, il y avait de la danse, il y avait des acrobates. Et je me souviens de mon émerveillement devant ce spectacle et d'avoir demandé après mes parents de m'inscrire dans un atelier théâtre, et je me souviens du premier atelier théâtre où on a fait des improvisations, on a fait des choses assez étranges avec des enfants de 7-8 ans, très Lee Strasberg, l'acteur studio, c'est-à-dire des choses de conditionnement quasi hypnotique, où moi je ne ferais jamais ça avec des enfants, je trouve ça un peu risqué, et d'avoir fini sur la scène du malade imaginaire, n'importe quoi, du médecin malgré lui, la première scène, Martine Sganarel, que je connais encore par cœur. Et donc, c'est la sensation d'avoir trouvé sa place, en fait. Tout à coup, d'avoir
ça, c'est ce que je veux faire.
Ouais.
Plus ou moins
Ben, c'est là où je suis heureux. Plus que ça, c'est ce que je veux faire. Et puis après, plus tard, des petites annonces de casting. Je me souviens du Temps du Loup de Michael Haneke, de trucs comme ça que je n'ai pas eu. Mais de commencer, moi, à éplucher les journaux. Et le chant à l'adolescence, c'est Une émission télé. C'est beaucoup de concours de chant. Je viens du Beaujolais où je gagne mon poids en bouteille de vin. Donc mon père était ravi. Et puis une émission télé. Ouais,
vous n'êtes pas très. Vous pesez peu quand même, non? C'est, mais bon.
Ouais, mais en bouteille. Alors je pesais encore moins puisque j'avais 14-15 ans. Mais en bouteille de vin, ça faisait quand même mal de bouteilles de brouillis, de moulins à vin. Ouais, bons Beaujolais, pas la piquette.
Ah ouais, d'accord. Pas le nouveau, là, du mois de novembre.
Non. Donc voilà. Et puis plus tard, le conservatoire. Entre-temps, il y a eu un diplôme d'orthophoniste, parce que pour plein de raisons, là encore, psychanalytiquement indémêlables.
Vous avez exercé ?
Rassurer mes parents, me rassurer moi-même. Je n'ai pas exercé, j'ai eu le diplôme et j'ai enchaîné avec le conservatoire. Et je voulais en fait faire ça l'année du bac, j'ai passé ce concours-là. En me disant, je l'aurais jamais, je l'ai eu. Et je voulais faire ça pour faire de la rééducation vocale pour les comédiens et les chanteurs. Donc, il y a quand même une espèce de fil rouge et de cohérence.
De cohérence, c'est ça. Ouais.
Voilà. Voilà, voilà. J'ai l'impression de me dire, mais.
Ah mince, je
Frédéric Lopez, vous voyez ces émissions.
Je ne pensais pas que je tendais un piège, excusez-moi.
Non, pas du tout.
Je suis confus, Grégoire.
C'est que tout à coup, en même temps qu'on raconte, on se dit, qu'est-ce qui est vraiment intéressant pour les autres?
Ça l'est. Parce
mais
que...
en tout cas, il y a quelque chose autour à la fois de la voix et à la fois, sans être trop lyrique, un endroit où. La vie sans ça, au moment où j'y ai goûté, je me suis dit, sans ça, elle ne serait pas suffisante. Voilà.
C'est un mot de Pessoa. Sans l'art, la vie, effectivement, manque de quelque chose. Il y a un manque. Enfin, voilà, il manque un sel, il manque quelque chose, il manque du goût, il manque de... La vie ne suffit pas. Il faut de la littérature, il faut de l'art, il faut une autre dimension. Manger, c'est très bien, nécessaire.
On aime manger. Mais, on est à Lyon, certes. Il faut aimer manger.
Voilà, mais il faut plus. Il faut plus. Je crois que Nietzsche aussi en parle. D'autres.
Oui, ils sont nombreux. Oui. Nietzsche, je crois que c'est sans musique, la vie serait une erreur ou des choses comme ça.
D'ailleurs, peut-être chanterez-vous pendant cette émission, Perlimpinpin. Éventuellement, c'est à voir. On verra.
Il est peut-être
question de réverbération. Que les studios de Radio Canut ne soient pas complètement favorables à l'expérience lyrique. Comment est-ce que vous arrivez donc ensuite à Joseph Pontus? Parce qu'auparavant, j'ai deux livres dans la main. Vous passez par Sylvain Prudhomme, par Les Routes. Vous évoquiez cette envie il y a 4 ans, l'envie de mettre en scène ce texte. Suspense, vous êtes arrivé. Vous l'avez mis, et d'ailleurs pas très très loin. C'est une
voisine.
On l'a
mis en scène il y a un peu plus de 2 ans au Théâtre des Clochards Célestes, oui. Avec déjà Steven Fafournou et Jennifer Testard qui sont dans la ligne de Joseph Pontus.
La compagnie Quand je marche a été fondée un peu avant ou à cette occasion?
Elle a été fondée. Alors moi, quand je suis sorti du conservatoire, j'ai plus fait de la mise en scène que qu'était interprète. Et ça a commencé à fonctionner pas trop mal dans de petites salles. On est devenu une compagnie moyenne. On a commencé à avoir des subventions, des aides. Et puis
vous évoquiez à tout bout de champ. Vous y avez chanté.
Alors ça c'est plus tard. Oui, ça c'est le chant. Là je parle vraiment que uniquement du théâtre. Et puis je me suis un peu cassé la figure en 2012 parce que je ne savais pas que j'étais lent. Et que quand on est aidé et tout, au bout d'un moment, il faut rentrer dans une logique de production assez régulière. Et moi, je crois que j'ai découvert à ce moment-là que j'étais d'abord interprète et que de temps en temps, j'ai des envies de porter des projets et de faire entendre certaines paroles. Mais moi, je suis d'abord un interprète. Donc, j'ai recréé une compagnie bien plus tard, en 2016, je crois, en 2015-2016. Et voilà. C'était quoi la question originelle?
C'était comment est-ce que vous arrivez à...
Et donc comment est-ce que j'arrive à ça?
Et puis Joseph Pontus ensuite.
Après plusieurs années davantage comme interprète, après avoir commencé à écrire des chansons et à faire aussi des concerts avec mes propres chansons, aussi un peu aller chanter de la musique baroque, un peu faire du musical, tout ça. Je suis tombé.
C'est des choses très différentes. Hein, ouais, c'est baroque et musical.
En fait, c'est ça que j'aime dans mon métier, c'est que il n'y a aucune monotonie. Alors après,
pas de frontières, pas de limites.
Non, je crois pas. Les seules limites, c'est est-ce que ça a du sens pour moi et est-ce que j'ai envie de porter cette parole. Ça va être plus des limites éthiques que des limites stylistiques. Moi, j'aime les paillettes, les plumes, l'austérité de certains projets plus âpres. Je danse aussi. Enfin, voilà, j'aime plutôt qu'il n'y ait pas trop de limites. Mais que la question, c'est la question du propos et à qui on veut l'adresser. Et donc, je monte à la ligne. Non, d'abord, par les routes. Qu'est-ce que je peux dire? C'est
un roman, hein, aussi,
c'est un roman aussi, c'est l'adaptation d'un roman, exactement.
Et très récent, hein, je crois, 2019
très
aussi.
Très récent, qui a eu le Fémina en 2019, en effet. Et c'est l'histoire d'un homme qui est auteur, qui arrive à 40 ans et qui a un peu construit plein de choses dans sa vie. Tout s'est un peu effondré, ses histoires d'amour, ses projets professionnels, et il quitte Paris pour une ville de province. Et là, il tombe par hasard sur l'autostoppeur, il n'a pas de nom dans le roman, qui est un ami à lui de quand il avait 20 ans, avec qui il s'est fâché, on ne sait pas vraiment pourquoi. On le devine un peu après, et cet ami qui prenait toujours la route, qui partait à l'aventure des jours et des jours durant, lui a construit une vie avec une épouse, une maison, un enfant, et c'est comme si les choses s'étaient inversées. Et Marie, la compagne de l'autostoppeur, va être prise entre ces deux hommes qui, l'un continue en vérité à partir et à prendre la route, et de plus en plus, et l'autre qui a tout à construire est celui, au contraire, de la solidité. Et en fait, elle a besoin autant de celui qui part que de celui qui reste. Et c'était une interrogation poétique et métaphysique sur est-ce que il y a un moment où on s'arrête de devenir pour simplement être. Et avec une langue qui était sublime, avec un endroit de théâtre possible à creuser, superbe, en cherchant par l'improvisation, par quelque chose. Je crois que c'était un spectacle très très doux. Très très doux, et j'avais envie à ce moment-là de porter ça sur un plateau. Voilà. Et donc, À la ligne, c'est un texte dont j'ai beaucoup beaucoup entendu parler, par beaucoup d'amis qui l'ont lu, que ça a marqué, par des émissions télé, mais aussi par Sylvain Prudhomme, l'auteur de Par les routes. Donc c'est Sylvain qui, le premier, m'a dit « Est-ce que t'as lu À la ligne de Joseph Pontus ?» Je dis « Non, il est sur ma liste. » Et en fait, il est resté sur ma liste de sa sortie à juin de l'année dernière. En fait, je ne l'ai pas lu avant juin de l'année dernière.
Entre-temps, Joseph Pontus
est décédé.
Est décédé, c'est ça
que vous allez dire.
C'est
oui.
Fou, punaise.
Il est décédé en 2021.
C'est ça, ouais.
Je ne sais pas tout à fait à quel âge, mais je crois à 42 ans, autour de ces âges-là. Et c'est Damien Gouy. Qui
venu à l'émission aussi.
Il est venu,
Damien. Oui. Pas récemment, je dirais 5, 6, 7 ans. Mais il est au Théâtre des Marronniers.
Damien, il est artiste associé depuis pas mal de temps au Théâtre des Marronniers. Et il participe de plus en plus aussi à la vie du théâtre, à la programmation, à une part directionnelle. Pour une passation de pouvoir sur le temps. Et il me dit, si tu as quelque chose à proposer, puisqu'ils sont... Le Théâtre des Marronniers a plusieurs lignes directrices, mais il y a une ligne qui est vraiment sur la parole des poètes, sur l'écriture. Et ils sont associés à l'espace Pandora pour le magnifique printemps, qui est le printemps des poètes en région ici. Et il me dit, si tu as quelque chose à proposer, n'hésite pas. Moi, ça fait très 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 longtemps que je n'avais pas joué au Théâtre des Marronniers. Et je propose d'abord, dans un premier temps, un autre projet, un projet sur l'œuvre de Kay Tempest. Kay Tempest, c'est un poète anglais non-binaire qui, en fait, a écrit du théâtre, de la poésie, du roman,
de la chanson,
du rap, voilà, du spoken words, des essais, etc. Et qui a une pluralité dans son œuvre que j'aime énormément, qui parle de thématiques contemporaines très très fortes, avec une langue à la fois... comme il vient du rap, une langue vraiment qui claque, quoi. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'à la fois, j'aime beaucoup l'œuvre de Kay Tempest, et puis, j'avais envie... Je m'interroge toujours sur les publics qui sont très, très, très séparés les uns des autres. Tel type de public, tel sociotype de spectateur va aller dans tel théâtre et pas dans tel autre. Et il me semblait que Kay Tempest allait me permettre, pour les spectateurs des Marronniers, qui sont certainement, sans vouloir préjuger trop, mais... en tout cas par rapport à ce qui est proposé, assez éloigné de Kay Tempest, je voulais pouvoir les mélanger avec tout un réseau qui est aussi le mien, un réseau queer, un réseau LGBTQIA+, et que ces gens qui, à mon avis, a priori ne se rencontrent pas, qui est aussi un des sens de mon métier, de faire des ponts avec des publics avec qui je travaille aussi, qui sont par exemple assez éloignés de la vie culturelle urbaine, de pouvoir faire ces ponts-là. Il se trouve que je monte ce projet-là, le Théâtre des Marronniers l'accepte, et l'agente de Kay à Londres ne nous donne pas les droits. Ce qui est une expérience que je connais avec les anglo-saxons. Ouais, mais en fait, c'est des choses de droit où la question du copyright a tellement rien à voir avec la question du droit français qu'il y a toujours, quand on monte, j'avais monté Tennessee Williams, enfin, il y a toujours des endroits où ça frotte.
La ménagerie de verre, c'est ça?
Exactement. Il y a très, très, très longtemps. Et donc, à ce moment-là, je lisais enfin Joseph Pontus. Parce que moi j'ai une très grosse bibliothèque, mais j'ai aussi toute la pile des choses à lire.
La to-do, to-read list.
Exactement.
To read. Oui.
Et ça m'a vraiment percuté. Ce qui m'a percuté, c'est la langue, d'abord. C'est-à-dire que si ça s'appelle à la ligne, c'est qu'aujourd'hui on ne dit plus qu'on travaille la chaîne. Il y a un euphémisme qui est apparu, qui est qu'on travaille à la ligne, et que cette chose-là, qui est aussi la forme de l'écriture, c'est-à-dire que c'est en vers libre, sans ponctuation, en allant vraiment à la ligne, pour rendre à la fois la cadence, le rythme de l'usine, mais à la fois, il le décrit, Saint-Joseph Pontus, la manière dont on pense de manière très... très très efficace, séquencée, quand on est en train de faire ce travail-là très répétitif, et qu'il n'y a pas le temps de faire des subordonnées, des propositions subordonnées. C'est des choses qui vont vraiment à l'os, très très pas sèche, parce que cette langue est au contraire pleine de tendresse, mais très réduite, quoi, comme on réduit, comme on fait un réduit dans un bouillon cube, mais c'est parce qu'il est beaucoup dans l'agroalimentaire et qu'il y a des images comme ça que je dis ça.
Et sur plus de 250 pages, hein, quand même.
Exactement.
L'édition poche est même plus épaisse encore, près de 300 pages.
Et nous, on a fait un montage qui doit représenter un tiers pour 1h20 de spectacle.
Ça doit quand même donner un bon aperçu déjà.
Oui, 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 il y a vraiment une traversée assez exhaustive. Et puis, il faut dégager des axes. Et moi, ce qui m'intéressait dans ces axes-là, c'est qu'en fait, avant de parler des axes sur lesquels on est parti, moi, je fais un théâtre qui n'est jamais, jusqu'à maintenant, en tout cas dans les projets que je porte, frontalement politique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, et c'est formidable que ça existe, mais ça n'est pas mon endroit, il y a quelque chose qui est toujours politique par la bande. Là, on a fait un projet qui s'appelle Entre chien et loup.
Au théâtre des Clochards Célestes, en octobre dernier, septembre, c'est ça.
Qui évoque finalement la question à la fois du dérèglement climatique et de notre rapport aux autres espèces, aux autres vivants, mais toujours sans produire de discours idéologique. Parce que je suis quelqu'un qui, à mon avis, est quand même plutôt très politisé, mais je ne suis pas sûr pour moi que ce soit cet endroit-là du théâtre, l'endroit de la militance que j'ai envie de défendre. C'est-à-dire qu'il faut avoir, à mon sens, des convictions, mais que ça transpire plutôt que faire le catéchisme aux gens. Et puis en plus, toujours pour revenir sur la question des publics, moi ce qui m'interroge beaucoup, c'est à qui on s'adresse. Souvent on s'adresse à des gens déjà acquis à notre cause. Et en même temps, il y avait quand même une dichotomie assez forte entre ce que je pense dans la vie et ce que je fais sur un plateau, qui n'est pas du pur divertissement, mais qui est plus existentiel que idéologique, on va dire un truc un peu, des grands mots comme ça. Mais il y a eu l'année dernière la réforme des retraites, et la question de la réforme des retraites, une des choses moi, qui m'a vraiment percuté, c'était ces gens-là qui sont dans les bureaux, qui ont souvent fait, pour des questions de reproduction sociale, des grandes écoles, et qui ont certainement aucune idée de ce que c'est que ce travail-là, disent travailler 2 ans de plus, c'est rien. Mais c'est rien pour qui, en fait? Est-ce qu'ils ont conscience des corps au bout de la ligne, justement? Et ce texte-là, par un abord extrêmement poétique, rend compte de ce que une certaine violence du capitalisme fait au corps. Et interroge aussi la question de la conscience de classe, de la classe ouvrière. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il n'y a plus de classe ouvrière, mais en fait, c'est surtout que la conscience de classe ouvrière a été désinguée par, là il en parle très bien,
l'intérim, c'est ça.
Par l'intérim.
C'est pas du jeu, là, on refait l'émission, je crois, de Joseph Pontus chez Marie Richeux, c'est ça, sur France Culture, il me semble.
Ah, alors après, moi j'ai tenté d'être le plus fidèle à sa pensée, donc certainement que je dois avoir digéré des choses, et puis on a la tête dedans surtout, donc c'est ça qu'on raconte.
Non, mais très bien. Mais le propos me semble assez violent en plus. Enfin, comment dire, assez exact et assez terrible forme de cynisme peut-être, je ne sais pas.
Ah, comment, vous l'avez reçu la comme ça.
Non, mais c'est une vérité qui pourtant est tue, quoi. La classe ouvrière ne disparaît pas parce que les effectifs sont moindres ou parce que la chose disparaît.
C'est parce que l'organisation du travail dézingue.
Il y a une sorte de remplacement qui est fait. Exactement. Un grand remplacement, si on veut utiliser toujours des grands mots.
Une autre forme de grand remplacement, ouais.
Exactement.
Et en fait, moi, ce qui m'a plu vraiment, et c'est pour ça que je suis content que ça s'inscrive dans Magnifique Printemps, le printemps des poètes, c'est qu'il y a d'abord une langue et il y a d'abord une foi dans les forces de, je sais pas comment on peut dire ça, mais la poésie, la chanson a une place très très importante dans ce texte. Et il y a une forme de dépassement de l'expérience par la poésie et la chanson.
Je pense qu'il est temps de faire une pause. Vous dites poésie, chanson, mais j'ai deux titres à vous proposer. Ah. Est-ce qu'on écoute Björk ou est-ce qu'on écoute Charles Trenet? Parce que la question peut être difficile. Mais
Charles Trenet, c'est le chouchou
de Joseph Pontus. On pourra l'écouter. C'est ce que vous avez indiqué. À défaut de le diffuser à l'antenne, la playlist sera bien sur le blog. Auditeur, auditrice, je vous renverrai. Peut-être que je ne donne pas assez souvent l'adresse du blog. Je vous y renverrai. Donc
on va mettre Charles Trenet.
On met Charles Trenet. Ouais. Ça fait quota français, mais tous les deux, on s'est dit tout à l'heure que le titre de Björk est quand même très beau aussi.
Ah, c'est merveilleux.
La bande originale de Dancer in the Dark de Lars von Trier. Écoutons la folle complainte.
Allez.
Comme ça, ça nous met directement. Il évoque le titre même de. Ou
il évoque le titre même en disant que c'est la plus belle chanson qui a jamais été écrite.
Il parle aussi, voilà, c'est même dans les c'est pas les remerciements, c'est comment dire en
une espèce d'incipit, première page, ou dans
ce
lequel
livre, qui est à Christelle et lui doit tout, est fraternellement dédié aux prolétaires de tous les pays, aux illettrés, aux sans-dents avec lesquels j'ai tant appris, ri, souffert et travaillé, à Charles Trenet, sans les chansons duquel je n'aurais pas tenu, à MDG et à ma mère. Je crois qu'il n'y a pas de plus belle introduction que l'on pourrait faire pour le titre qui s'en vient donc. La folle complainte de Charles Trenet.
Les jours de repassage dans la maison qui dort, la bonne n'est pas sage, mais on la garde encore. On l'a trouvée hier soir derrière la porte de bois, avec une passoire se donnant de la joie. La barbe de grand-père a tout remis en ordre, mais la bonne en colère a bien failli le mordre. Il pleut sur les ardoises, il pleut sur la basse-cour, il pleut sur les framboises, il pleut sur mon amour. La revanche des orages a fait de la maison un tendre paysage pour les petits garçons qui brûle d'impatience deux jours avant Noël et sans aucune méfiance accepte tout pêle-mêle. La ville, la mort, les squares et les trains électriques, les larmes dans les gares guignolent et les coups de trique, les becs d'acétylène aux enfants assistés et le sourire d'Hélène par un beau soir d'été. Donnez-moi quatre planches pour me faire un cercueil. Il est tombé de la branche, le gentil écureuil. Je n'ai pas aimé ma mère, je n'ai pas aimé mon sang, je n'ai pas aimé la guerre, je n'ai pas aimé la mort. Je n'ai jamais su dire pourquoi j'étais distrait. Je n'ai pas su sourire à tel ou tel attrait. J'étais seul sur les routes, sans dire ni oui ni non. Mon âme s'est dissoute, poussière éternelle. mon nom.
C'était très beau, cette folle complainte, et c'est dommage, j'assure une transition alors que ça aurait pu être intéressant de faire sans transition, de nous plonger, Grégoire Blanchon, dans le texte à la ligne Feuillet d'usine, un texte de Joseph Pontus que vous mettez en scène dans une forme un peu particulière, une lecture théâtralisée, c'est au Théâtre des Marronniers. Ça commence ce soir, ce mercredi 6 mars à 20h, c'est donné jusqu'au mercredi 13 mars à 20h toujours.
Sans le samedi et
relâche
dimanche.
Relâche samedi dimanche, ouais. Et lundi prochain,
19h.
C'est à 19h.
Et on fait une lecture à 16h30 d'une version vraiment allégée à la maison du livre du son...
À Villeurbanne.
Et de l'image, à Villeurbanne, voilà.
Auditeurs, auditrices, on est passé donc à une deuxième question après le parcours. Je vous remercie, hein, Grégoire, c'était un parcours très, très complet. D'ailleurs, on est même aussi arrivé à une sorte de début de traitement de cette deuxième question. Que faites-vous actuellement? Quel est ce spectacle? Vous avez donc déjà indiqué un peu la généalogie ou comment dire l'origine du projet par le biais de Damien Gouy qui est donc au Théâtre des Marronniers. Est-ce qu'on pourrait donc maintenant entrer davantage dans cette œuvre avec, je ne sais pas, de différentes présentations? Quelle forme est-ce que cela prend sur scène? Je vous avertis, je vous préviens, auditeurs, auditrices, fin d'émission, il y aura bien un agenda, annonce des différents spectacles à venir, mais la chronique de Francis n'aura pas lieu. Francis était bien de retour. Le mercredi, c'était le 14 février dernier, une grosse, belle émission avec à tout bout de champ, mais il est absent aujourd'hui. D'ailleurs, on le salue bien, j'espère qu'il sera de retour la fois prochaine et les fois prochaines parce qu'il s'était engagé à essayer de venir un peu plus souvent. Donc, la chronique presque littéraire, L'égoïsme se partage, n'aura pas lieu aujourd'hui. Ça nous laisse davantage de temps pour Grégoire, vous proposiez lecture, théâtralisée aussi. Alors, ça, ce sera que pour moi, auditeur auditrice, mais lecture du début.
On peut en lire un extrait et on parle après de ce qu'on en a fait sur scène. Donc, à l'heure de vous préférez.
Et bien voilà.
Moi, je...
Oh ben, je vous en prie, c'est vous l'invité, vous décidez.
On va lire un petit extrait, en tout cas le tout début. En entrant à l'usine, bien sûr, j'imaginais l'odeur, le froid, le transport de charges lourdes, la pénibilité, les conditions de travail, la chaîne, l'esclavage moderne. Je n'y allais pas pour faire un reportage, encore moins préparer la révolution, non. L'usine, c'est pour les sous. Un boulot alimentaire, comme on dit. Parce que mon épouse en a marre de me voir traîner dans le canapé en attente d'une embauche dans mon secteur. Alors c'est l'agroalimentaire. L'agro, comme ils disent. Une usine bretonne de production et de transformation et de cuisson et de tout ça, de poissons et de crevettes. Je n'y vais pas pour écrire, mais pour les sous. À l'agence d'intérim, on me demande quand je peux commencer. Je sors ma vanne habituelle, littéraire et convenue. Eh bien, demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Pris au mot, j'embauche le lendemain à 6h du matin. Au fil des heures et des jours, le besoin d'écrire s'incruste tenace comme une arête dans la gorge, non le glauque de l'usine, mais sa paradoxale beauté. Je ne sens plus l'odeur de l'usine qui, au départ, m'agaçait les narines. Le froid est supportable avec un gros pull au vert, un sweatshirt à capuche, deux bonnes paires de chaussettes et un collant sous le pantalon. Les charges lourdes me font découvrir des muscles dont j'ignorais l'existence. La servitude est volontaire, presque heureuse. L'usine m'a eu. Je n'en parle plus qu'en disant « mon usine ». Comme si, petit intérimaire que je suis parmi tant d'autres, j'avais une quelconque propriété des machines ou de la production de poissons ou de crevettes. Bientôt... Nous produirons aussi les coquillages et crustacés, crabes, homards, araignées et langoustes. J'espère voir cette révolution. Gratter des pinces, même si je sais par avance que ce ne sera pas possible. Déjà qu'on ne peut pas sortir la moindre crevette. Il faut bien se cacher pour en manger quelques-unes. Pas encore assez discret, la vieille collègue Brigitte m'avait dit « J'ai rien vu, mais fais gaffe au chef, hein, s'il t'attrape. » Depuis, je loose des sous mon tablier avec ma triple paire de gants qui me coupe de l'humidité et du froid et de tout le reste pour décortiquer et manger ce que j'estime être, à tout le moins, une reconnaissance en nature. Je m'emballe. Revenons à l'écrit. J'écris comme je pense, sur ma ligne de production, divaguant dans mes pensées, seul, déterminé. J'écris comme je travaille, à la chaîne, à la ligne.
Le premier chapitre ne se termine pas là, mais vous souhaitiez en rester là. Oui, non, mais très bien. Oui, vous vous souhaitiez pour cette. C'est très bien. Je vous remercie. C'était une sorte de avant-primeur du spectacle.
Oui, comment on le lit à trois. On le lit à trois.
Est-ce une création ce soir ou c'est
Ce soir, c'est la création, la première des premières, en effet.
La toute première. Vous n'êtes pas seul, dites-vous. Steven et
Jennifer. Non, je suis avec Steven Fafournou et Jennifer Testard, qui sont des collaborateurs, collaboratrices réguliers. Et donc la forme, c'est une forme de lecture théâtralisée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous sommes texte en main.
Mais des photocopies ou le livre ? C'est, qu'est-ce que vous avez ce...
Des photocopies.
Oui, plutôt du papier.
Par moment sur un pupitre, par moment tenu à la main. Et qu'il y a en fait toute une mise en forme, une création lumière. Il y a de la vidéo, il y a de la chanson. Parfois qu'on entend, parfois qu'on chante nous-mêmes, il y a des déplacements. Et il y a en fait la lecture qui est simplement un moyen de mettre la parole devant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un travail tellement d'incarnation où on aurait recréé un décor d'usine, etc. Ce qui nous intéresse, c'est surtout que d'arriver à créer par cette langue-là le décor et les images et le film dans la tête des gens. Et qu'en même temps, ça n'est pas de la radio, sinon on en aurait fait un livre audio. Et donc, il y a quand même quelque chose d'autre médium pour créer des sensations et voyager en musique, par exemple.
Et voilà, il y a quand même une grande fidélité, puisque la musique n'est pas une, comment dire, une invention, un ajout de votre part.
Non, pas du tout. C'est vraiment très, très, très présent dans l'œuvre, et surtout la chanson française. Donc, d'où Trainet, il y a Barbara, mais il y a aussi des choses plus actuelles, plutôt très variétées, très populaires, il le dit lui-même.
Joseph Pontus, l'auteur.
Oui, Joseph Pontus, pardon. Et en fait, il y a un extrait qui est sublime. Est-ce que je le retrouverai sur les chansons et la condition ouvrière qui, c'est une... Voilà, je pense que c'est pas loin, parce que c'est vraiment bien plus court. L'autre jour à la pause, j'entends une ouvrière dire à une de ses collègues, tu te rends compte ? Aujourd'hui, c'est tellement speed que je n'ai même pas eu le temps de chanter. Je crois que c'est une des phrases les plus belles, les plus vraies et les plus dures qui aient jamais été dites sur la condition ouvrière. Ces moments où c'est tellement indicible qu'on n'a même pas le temps de chanter. Juste voir la chaîne qui avance sans fin, l'angoisse qui monte, l'inéluctable de la machine, et devoir continuer coûte que coûte la production alors que même pas le temps de chanter. Et diable qu'il y a des jours sans. Voilà.
Ouais, il y a Johnny Hallyday qui est
chanté. Il y a Johnny Hallyday aussi, et qu'on c'est... chante à un moment. Également, il y a un petit extrait que je chante de La nuit, quand revient la nuit, parce qu'il y a aussi tout un.
Oui, avec
cette chose-là sur le fait d'être déphasé et que la nuit est perpétuelle. À l'intérieur de l'usine, on sort, il fait nuit, etc. Juste un truc sur notre positionnement qui me semble important, rapidement. C'est que Joseph Pontus, lui, est un intellectuel au départ. Qui,
formation classe préparatoire,
voilà, c'est intéressant aussi de dire pourquoi il se retrouve à l'usine. Au départ, il a fait ce que le parcours que vous décrivez. Il a commencé à publier
pour éducateur spécialisé
pour gagner sa vie. Il était éduxpé, éducateur de rue à Nanterre, et puis il a déménagé pour épouser une femme qui habitait en Bretagne. Et là, il n'a pas trouvé
à Lorient, je crois. Mais...
À Lorient, exactement. Et il n'a pas trouvé de travail dans sa branche, donc il s'est mis en intérim. En attendant. Et donc, il a un regard qui est aussi le regard de quelqu'un qui n'est pas issu de cette classe ouvrière. Parce qu'aucun de nous trois ne le sommes. Nous, on est plutôt des espèces de... Puisque je parlais de sociotypes tout à l'heure, de bobos de la Croix-Rousse. Mais issus, on a quand même comme point commun d'être issus de classe moyenne. Mais pas de la classe ouvrière, mais d'avoir aussi cette possibilité de porter la parole sans se l'approprier tout à fait. Parce que la question de la légitimité aussi, on va pas dire c'est notre parcours, tout ça. Mais il a aussi, dans ce regard-là, dans le rapport à la littérature, dans la manière de regarder, il assume cette position qu'il décrit, où il y a une grande honnêteté sur ça dans son écriture.
Et puis il y a quand même une belle culture, hein, parce qu'on n'a pas forcément nommé les trois auteurs. Le premier n'était pas du tout nommé, Victor Hugo, dans ce Demain des
Demain des Laubes,
le passage de Claudel.
Vrai, on ne l'aime pas tellement,
c'est vous avez
tube.
Coupé le passage de Claudel.
Qui n'est
mais bon,
pas Claudel, et qui n'est pas coupé sur le plateau.
Il faut que je revienne.
Ils disent de Claudel, je crois, et en fait c'est Charles Péguy.
Péguy, Claudel, c'est quand même
mais il le dit, il est malin. À la grande librairie, il dit « Ah, j'ai mis 2-3 erreurs pour voir si les gens suivent. »
ensuite, moi je n'ai pas tout vu, hein, toutes les vidéos, les interviews de Joseph Pontus. Et puis ensuite, vous avez pareil, peut-être est-ce un choix aussi, ou disons une coupe, enfin n'importe, le Barbet d'Aurevy. Ce sont quand même des auteurs. Oui, Hugo, d'accord.
Et à la
fin. Peggy ou Barbet d'Aurevy, c'est quand même du perché, quoi. Il y a Dumas
à la fin. Il y a Dumas qu'on a gardé. Parce qu'il dit que justement, c'est ça qui l'a aidé à tenir. C'est-à-dire que par exemple, il a des fois des journées de 8 heures où il coupe la queue des vaches. Les vaches arrivent en demi-carcasse et il fait ce geste très répétitif. Et avec un couteau, en fait, ce qui lui permet de tenir, c'est de s'imaginer être un des trois mousquetaires et de donner des coups d'épée. Et en fait, il est toujours avec ce petit décollement du réel pour pouvoir survivre grâce à la littérature. Et ils sont nombreux. Il y a aussi la présence d'Apollinaire.
Exactement, pour le livre 1, il y a cette phrase qui est donnée, c'est fantastique. Tout ce qu'on peut supporter. Guillaume Apollinaire, alors il précise, hein, ce n'est pas extrait d'un poème, c'est une lettre à Madeleine Pagès, le 30 novembre 1915. Apollinaire décède en 18 ou 19, hein, je crois.
Sur ça, je ne suis pas calé. Je suis désolé.
Je crois que c'est la fameuse grippe espagnole. Son opération, sa trépanation se passe plutôt bien, mais il prend néanmoins défense immunitaire un peu faible.
Parce que
la grippe espagnole l'emporte.
Les photos qu'on a eues de lui, il y en a beaucoup.
Le bandage autour
de la tête. Oui, il a un bandage autour de la tête et je ne savais pas que c'était dessus d'une trépanation.
Mais l'opération ne se passe pas trop mal. Il en sort plutôt bien. Il garde ses facultés, mais je pense. Corps un peu affaibli et il prend cette. Je crois qu'il y a quoi? Il y a 5-10 millions de morts de la grippe espagnole en Europe. C'est absolument effrayant.
Beaucoup plus que de la guerre en elle-même, je crois. non, c'est vrai.
Ah, mais.
Elle a plus tué.
Il nous reste encore bien des minutes pour en parler. Est-ce qu'on fait une autre pause? Puisque vous m'avez indiqué, je vous en sais gré, vraiment merci, de tout un tas de titres. Il y a Barbara Perlin-Pimpin, Bernard Lavillier, Les Mains d'Or. Il y a aussi des choses peut-être moins liées, mais néanmoins à l'actualité un petit peu. Et c'est un peu de la politique par la bande. Le Arthur Teboul.
Ah oui, mais parce que c'était la place de la poésie.
On était à la mi-février aussi.
C'est une des choses qui m'a le.
Quand on en était parlé.
Qui m'a le plus.
Marqué dernièrement. Oh. Oui.
Ben, en tout cas, voilà, je ne vais pas venir sur les polémiques par rapport à Manouchian et le gouvernement français actuellement, etc. C'est pas ça, c'est vraiment Arthur Teboul qui chante La Fiche Rouge de Ferré et d'Aragon. Et en fait, le parallèle était vraiment sur la puissance de la poésie. Et je trouvais que c'était très concret dans comment Arthur chante et Feu Chatterton, tout le groupe. Voilà, donc c'est pas. Ah, ce qu'il faut que je choisisse.
C'est à retrouver sur le blog.
Oui, voilà.
Blog, blogs.radiocanutoutaccroché.org/spectaculaire. Je ne sais pas si j'ai déjà indiqué ça. Je pense que les lecteurs du blog le savent, mais les auditeurs, auditrices, le savez-vous, que toutes les émissions sont bien en réécoute en ligne. On peut réécouter tout ce que nous disons parce que le direct à 14h. Êtes-vous nombreux? Êtes-vous nombreuses, auditeurs, auditrices, derrière votre poste ou bien sur Internet à écouter l'émission? Et bien, enfin, en tout cas, vous pouvez la retrouver sur le blog au pluriel, .radiocanutoutaccroché.org/spectaculaire. Et vous pouvez retrouver également les programmations musicales qui, parfois, excèdent un petit peu ce qui peut être diffusé à l'antenne. Donc là, je ne sais pas si on pourra tout diffuser, mais au moins, il y a encore plusieurs titres. On en écoute un, non? Lequel? Donc là, j'ai sous les yeux le Barbara, Bernard Lavillier et Manouchian également. J'ai les trois. Comme vous souhaitez, il nous restera. On pourra peut-être même en diffuser un autre encore en fin d'émission.
Donc, je ne sais pas. Arthur Teboul, allez. Ça n'a pas de lien direct, mais c'est par rapport à l'importance des poètes.
Eh bien, c'est très bien. Et nous continuons. Nous allons encore. Il reste des choses à dire, hein, Grégoire. Ou peut-être que vous souhaitez inviter les auditeurs auditrices à se rendre au Théâtre des Marronniers. On peut réserver les places par téléphone ou sur le. Il y a une billetterie.
Exactement,
sur le site, hein,
je crois que par téléphone et par le site internet, on peut.
Théâtre des Marronniers avec deux R et deux N. Un S, c'est bien au pluriel. C'est la rue des Marronniers. C'est. 50 mètres de la place Bellecour. Cela commence ce mercredi 6 mars à 20h jusqu'au mercredi 13 mars à 20h, relâche samedi dimanche. Et lundi prochain, c'est à 19h.
Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes. Ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux. des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, ils cherchaient un effet de peur sur les passants.
C'est pas très beau, mais c'est encore avec l'accord de Grégoire Blanchon que je me permets de couper, de chanter la fin de ce magnifique morceau. Vraiment très beau, c'est Arthur Teboul avec le groupe Feu Chatterton dans l'hommage à Manouchian au Panthéon. C'était le 24 février, c'est ça? C'était il y a quoi? Il y a 10, 15 jours à peine?
Peut-être, oui. Je dirais 15 jours. Ouais.
La chanson L'affiche rouge, tirée du poème de les strophes pour se souvenir de Louis Aragon. Première version déjà chantée par Léo Ferré, donc une version réactualisée, et c'est vrai, une version très émouvante, y compris pour ce qui est de, comment appeler ça, l'instrumentation, quoi, la musique derrière est vraiment très poignante. C'est pas tout à fait complètement en rapport avec À la ligne feuillet d'usine, la lecture théâtralisée qui commence au Théâtre des Marronniers ce soir, mercredi 6 mars, donné jusqu'au mercredi 13 mars prochain. C'est bien Grégoire Blanchon avec la compagnie
Blanchon.
Grégoire Blanchon avec la compagnie Quand je marche.
C'est vrai que Blanchon à Lyon qui au niveau du théâtre, ouais, c'est historique, mais c'est pas ma famille.
Ce n'est pas Roger, c'est bien Grégoire que nous recevons. J'en suis désolé. Et donc, nous, fin d'émission, on va encore évoquer un peu cette lecture théâtralisée qui a lieu, mais généralement, c'est le temps de la chronique. Voilà, Francis n'est pas là aujourd'hui, donc point de chronique, l'égoïsme se partage. Néanmoins, quelques annonces à l'agenda. Pour ce qui est de la musique, la symphonie de Mahler, la 9e, Gustav Mahler est arrivé aux 9 symphonies, comme Schubert, comme Beethoven. Il en est hélas également, comme ses illustres prédécesseurs, ses grands compositeurs, il en est resté là, la 9e symphonie. Elle est donnée au théâtre, à l'auditorium, par le directeur Nikolai Schepp-Snyder, avec l'ONL, l'Orchestre National de Lyon. Elle est donnée demain, jeudi 7 mars, ainsi qu'après-demain, samedi 9 mars, 20h le jeudi, 18h le samedi. À l'Opéra va commencer le festival Rebattre les cartes. C'est pas tout de suite, hein, c'est le 15 mars prochain, c'est donné jusqu'à début avril, avec 3 opéras. Rebattre les cartes, c'est le titre du festival des 3 opéras. Il aurait pu être ajouté, et Rebattre les cartes avec des femmes. Hein. Ce sont des personnages de femmes qui seront les artistes et les personnages principaux de ces 3 œuvres. La comtesse ainsi que sa nièce dans La Dame de Pique. Minnie dans La Fanciulla dell'Ouest, la fiancée du Far West de Puccini. Premier opéra est de Tchaïkovski. Et dans le dernier, nous en parlions avec l'équipe de Gram qui est venue début février dernier. Otage, l'opéra de Sébastien Rivas. Je crois que c'est Corinne Meyer. J'ai perdu le nom de la personnage principal de ce roman de Nina Bouraoui, qui d'ailleurs est l'artiste associée de Gram, la Biennale Musique Exploratoire BIM, qui est cette année. Il y a également un ballet qui est donné ces jours-ci, le Canine Jaunâtre 3. Il a commencé hier à la Maison de la Danse, il est donné jusqu'à ce vendredi 8 mars. Cédric Andrieux nous en parlait en janvier dernier. Marie-Albert nous en reparlera peut-être quand elle viendra en avril prochain. Nous la recevrons pour évoquer plutôt la fin de saison. Il y aura du Merskönigam à venir et puis aussi un contrapunto avec d'autres chorégraphes. Ça, c'est pour musique et danse. Au théâtre Don Juan va commencer ce samedi 9 mars. En connaissez-vous le début, Grégoire? Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien égal au tabac, c'est la passion des honnêtes gens. Et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. C'est Macha Makaïev qui le met en scène. Et écoutez un peu ça, Grégoire, en êtes-vous jaloux? Du samedi 9 mars jusqu'au vendredi 22, c'est formidable. Mais déjà, pour vous, c'est très beau aussi. Du mercredi 6 au mercredi 13.
Là, on joue 9 fois. Ouais.
Combien de pièces sont données sur 2, 3, 4 dates à peine?
Là, on a des scolaires aussi, donc c'est pour ça.
Oh là là, ça c'est formidable.
Je peux conseiller quelque chose aussi?
Je termine avec des expositions. J'achève. J'ai fini une dernière exposition parce qu'il y a également des pièces au Célestin, un peu partout, à la Croix-Rousse. L'exposition Forme de la Ruine, c'est terminé au musée des Beaux-Arts. Elle était absolument géniale. J'ai pu y aller. J'ai pu également mettre la main sur feuilleter le catalogue. C'était d'un intérêt absolument stupéfiant. Je tenterai d'en reparler prochainement, puis je tenterai également de faire un compte-rendu sur le blog, mais c'était vraiment extrêmement stimulant. Enfin, c'était une exposition d'une richesse assez incroyable en termes de type d'œuvre. Il y avait des tableaux, il y avait des sculptures, il y avait également des photos, il y avait des installations, il y avait de la vidéo, de tout. Et le propos était assez stupéfiant sur la mémoire, en quelque sorte, le vestige, ruine, souvenir. C'était très, très intéressant. Dorothée Richard commence une exposition, c'est sur les quais un peu plus bas. Je crois que c'est l'espace Omar, me semble-t-il. Et puis, l'exposition également se termine aux archives départementales, accueillir, soigner, guérir. Je vous en prie. Oui. Grégoire Blanchon, c'est à vous, encore 5 minutes.
Non, c'est ma frustration de ne pas avoir les spectacles que je vais conseiller. Parce qu'en fait, j'ai vu une étape de Back to Reality de Catherine Hargreaves, qui va jouer là, au théâtre du Point du Jour, et qui était magnifique. Et donc, j'aurais voulu voir la forme finale, mais nous jouons en même temps. Et donc je vous le conseille. Et Viviane, une merveille, de Myriam Boudenia, qui est en
au
ce
Célestin.
Moment à la Célestine également. Je pense que c'est super. J'aime beaucoup ce que fait Myriam.
Et une pièce qui
et
porte.
Et nous on joue en même temps.
Vous,
et voilà.
Vous savez sur quoi porte la pièce?
Sur l'adolescence et la santé mentale. Ouais.
Exactement. J'ai voulu m'y intéresser, c'est-à-dire m'y rendre et peut-être recevoir quelqu'un. Mais
c'est comme le festival de l'opéra, Canine Jaunâtre. Je voulais aller le voir. l'opéra de Nina Bouraoui, La Fille du Far West, pareil, c'est super. On peut pas tout faire.
Hélas. Néanmoins, il faut s'y rendre à la ligne Feuillet d'usine. Comment en parler encore? Il y a également dans l'espace même du Théâtre des Marronniers, c'est ça? Ou c'est
Il y a une exposition aussi. En fait, avec Steven Fafournou, ça fait plusieurs années qu'on collabore avec une MFR, Maison Familiale et Rurale. Ça fait partie des publics avec lesquels j'aime travailler. Et c'est des jeunes agriculteurs. Je fais un raccourci, ils sont en bac pro agriculture, mais ils sont dans la ferme depuis qu'ils sont tout petits. Et on a voulu aller interroger avec eux ce serait quoi la forme d'écriture qui pourrait témoigner de leur expérience sur les exploitations agricoles, puisque à la ligne, il écrit en allant à la ligne. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils produirait comme poésie. Et donc on a travaillé avec Fabrice Poncet, leur prof formidable avec qui on collabore depuis plusieurs années. Et leurs œuvres sont exposées dans le foyer du théâtre.
Des textes, c'est ça? Des textes. Un enregistrement aussi?
Voilà, il y a deux textes par élève. Un enregistré, parce qu'on a travaillé à la mise en voix. Donc il y a un casque, une borne pour écouter. et avec leur propre
dans
voix.
Dans le théâtre des Marronniers, c'est dans,
oui, c'est dans le foyer. Et puis un texte affiché qu'ils ont aussi calligraphié, parce qu'on a étudié justement les calligrammes d'Apollinaire, etc. Donc on n'est pas allé jusqu'au calligramme, ils ont fait d'autres propositions. Mais voilà, qu'est-ce que c'est que rendre compte d'une expérience très concrète par le biais d'une écriture poétique. Voilà.
Généralement, les émissions se terminent de cette manière. Je lance Grégoire. Auditeur, auditrice, nous ne nous sommes pas tout dit. Il y aurait certainement encore beaucoup à dire sur à la ligne feuillet d'usine. Écoutez, la solution, il y a une solution assez facile.
Il faut venir voir
le spectacle du mercredi 6 mars, c'est-à-dire aujourd'hui 20h jusqu'au mercredi 13. Mercredi prochain 20h aussi. Relâche samedi dimanche. Lundi prochain, attention, c'est à 19h. Peut-être un bon horaire.
À 19h, c'est ça. Complet.
Ah, ce sera
donc voilà, ne vous encombrez pas la tête avec cette information. Venez à 20h.
C'est un bon horaire.
Quand vous voulez, sauf lundi, c'est
sauf
complet
lundi
déjà.
Prochain. Merci. Les renseignements, on peut les trouver sur
le site
des Théâtre des Marronniers. Vous avez une page Facebook, je crois. La compagnie Je Marche, quand Je Marche, n'a pas forcément de.
Non. J'ai une page professionnelle sur Facebook à titre personnel, mais la compagnie n'en a pas.
On peut vous entendre chanter. Il était question éventuellement de le faire pendant l'émission, mais bon, la réverbération n'est peut-être pas.
On peut pas tout faire.
On pourra écouter L'Envol, chanson d'adieu. Non, chanson d'adieu, si. Est-ce que ce titre est sur votre page YouTube?
Oui,
aussi,
j'ai un EP sur Spotify qui est sorti il y a quoi? Il y a 2 ans, peut-être.
Et il y a aussi une page SoundCloud, je crois, que vous avez, me semble-t-il.
Exactement.
Il y a plein de choses dessus. Auditeur, auditrice, je mettrai tout. Je redonne l'adresse de ce blog, le blog de l'émission spectaculaire, blog.radiocanu, tout accroché, pas de tiret, rien de rien, c-a-n-u-t à la fin, .org/spectaculaire au singulier. L'émission aujourd'hui, c'était la 323, un palindrome. On se quitte avec la chanson anglophone, mais c'est une Islandaise qui chante, c'est ça?
Oui.
Et il y a une Française qui chante aussi, hein, je crois, c'est dans ce titre?
Oui. En fait, dans la proposition de choses directement reliées, et puis des choses un peu par la bande, il y avait ce matin, mais apparu au dernier moment, Dancer in the Dark, parce que Björk a travaillé à la BO, le film de Lars von Trier, Björk a travaillé à la BO avec des sons d'usine, et puis le parallèle était évident, j'ai beaucoup parlé de l'importance de la poésie pour Joseph Pontus. Le personnage de Selma dans le film, elle s'évade par les comédies musicales qui sont une autre de mes passions. Et la mélodie du bonheur, Julie Andrews, et ce sera un autre spectacle. Et ça partait d'une chose très concrète avec les sons d'usine pour aller vers un morceau qui décolle et qui s'appelle Gvalda.
Grégoire Blanchon, je garde vos coordonnées, alors je les conserve bien, nous serons amenés, je l'espère, je le souhaite.
Faire une émission sur Julie Andrews,
à se revoir.
J'adorerais.
Ah bah, ce sera formidable. on va sortir et regarder nos agents.
Oui, on parlait des grands écarts tout à l'heure entre Joseph Pontus et Julie Andrews, mais il y a peut-être plus de liens que ce qu'on pense.
N'est-ce pas? Les émissions, auditeurs, auditrices, ne lâchez pas l'antenne. À venir, dans quelques instants, les bandes continuent, mais à 16h, Blues des Canus. 18h, Mayday. 19h, Canu Info. 20h, Idées Noires. 21h, la bande son de nos révoltes, et de 10h jusqu'à minuit, Boulimix, Funky Stery. Nous, on se quitte avec Gvalda, c'est la chanson qu'a choisi notre invité Grégoire Blanchon pour terminer cette émission. Je vous en remercie. La semaine prochaine, pas encore forcément d'invité prévu. La semaine suivante, ce sera de la danse. La semaine d'après, Franck-Emmanuel Comte, concert de l'Hôtel Dieu pour parler de musique baroque. La semaine après, on sera déjà en avril, mercredi 3 avril, avec Marie-Albert, une danseuse au ballet de l'Opéra de Lyon. Et puis plus tard en avril, on verra. Quittons-nous avec Björk, je crois 2000, hein, ce film, me semble-t-il. Je crois 2000 pile, 2001, me
peut-être.
Semble-t-il. Merci beaucoup, Grégoire, pour cette playlist. Merci aussi pour tout ce que vous avez dit sur cette émission, sur ce spectacle. Je viendrai, moi, je vais essayer de venir les agendas, peut-être mardi prochain.
Ah,
comme ça,
je pourrai
en reparler le lendemain. Merci beaucoup.
Réservez la semaine prochaine,
portez-vous
déjà
bien.
Très, très bien.
Portez-vous bien, au revoir tout le monde.
Au revoir.